Bonjour et bienvenue sur mon podcast, je suis Céline et tu es dans S'ouvrir à soi. Aujourd'hui on va parler de quelque chose d'un peu particulier qui comme ça en première intention peut vraiment faire peur mais aussi créer de la réaction de toute façon à chaque fois qu'on en parle, c'est l'activation de Kundalini. Je reviens maintenant il y a quelques temps d'une formation d'activation de Kundalini. J'ai mis longtemps, très longtemps, à oser y aller, à franchir le pas. Et je vais t'expliquer aujourd'hui qu'est-ce qui m'a poussée à le faire et pourquoi aujourd'hui je suis facilitatrice de Kundalini. Donc déjà, un grand merci de m'écouter. Je sais que ça fait quelques temps que je n'ai pas fait d'épisode, mais écoutez, j'essaye de suivre le flot de la vie, de ne pas forcément m'obliger à une régularité, d'avoir des vrais sujets à pouvoir creuser un peu en profondeur avec vous et auxquels partager. Je n'aime pas envoyer du vide, entre guillemets. Donc, pour te parler un peu de la Kundalini, je pense que c'est important que je te parle un petit peu, que je te pose le décor, en fait, de qu'est-ce que c'est que la Kundalini, d'où ça vient, déjà dans les origines, avant de te parler du créateur de l'Inner Dance et donc des activations de Kundalini. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à la base? D'où vient la Kundalini? Qu'est-ce que c'est que ce mot qui recèle plein de mystères, de peurs, mais aussi d'excitation? Moi qui suis professeure de yoga, la Kundalini, forcément, si je parle en termes chakra, on compare ça à un serpent lové, tout en bas, on va dire, du sacrum, tout en bas de la colonne vertébrale. Et en fait, on dit que c'est cette énergie, en partant à droite et à gauche de la colonne vertébrale, les canaux qui s'appellent Ida et Pingala, il y a une énergie féminine et une énergie masculine qui s'entrecroisent et montent comme ça tout le long de la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête. Et à chaque fois que ces canaux se croisent, cela forme un chakra, hein, en tout cas des 7 chakras principaux. Et du coup, activer la Kundalini reviendrait, on va dire, à laisser cette énergie monter d'une manière fulgurante, peut-être rapide, pour venir nettoyer tous ces canaux. Il ne s'agit pas que de cette énergie-là dont on parle. Moi qui ai fait aussi 2 années de médecine chinoise, je peux vous parler aussi de ce qu'on appelle le Jing. Le Jing, c'est également une énergie qu'on associe là pour le coup à quelque chose qui serait entre les reins, un peu comme une bougie, qui serait notre énergie vitale, qui est là, qui est disponible. Mais qui est déjà avec il y a des bougies plus grandes, des plus larges, des plus petites. On a tous une dose d'énergie et une énergie surtout qui nous est propre. Et également, si tu as déjà fait du tai chi, tu as entendu parler de cette énergie du chi. Donc en fait, on s'aperçoit que dans toutes les cultures, que ce soit en effet dans les nadis indiens ou dans les méridiens de médecine chinoise, dans beaucoup, beaucoup de cultures, il est question de cette énergie qui circule dans notre corps, qui ne serait pas juste le sang, la lymphe, mais de ces tuyaux d'énergie dans le corps. Et on peut aussi prendre cette image, en effet, de tuyaux d'énergie dans le corps. Le problème, c'est que vu qu'on ne le sait pas forcément, parfois ces tuyaux ont plein de petits graviers, de cochonneries à l'intérieur et l'énergie passe mal. Les activations de Kundalini vont peut-être permettre au fur et à mesure de disperser ces graviers, de disperser les petits cailloux à l'intérieur des tuyaux pour que ça circule mieux, plus vite et qu'on le ressente dans notre quotidien et dans ce qui se passe ensuite dans notre quotidien, pas uniquement dans notre corps. Donc la Kundalini, elle est assez mystérieuse, elle fait peur. Et alors, quand on voit tout ce qu'on voit en ce moment sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a des histoires de mode aussi, hein, il y a des histoires de mode, donc en ce moment, on ne voit que des activations extraordinaires, avec des gens qui bougent dans tous les sens, qui hurlent, qui pleurent, qui rient. On ne parle pas de toutes les activations beaucoup plus subtiles et douces qui peuvent se produire. Une activation de Kundalini, ce n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, c'est tellement subtil qu'on peut avoir l'impression qu'il ne s'est rien passé du tout. Je rentrerai plus dans les détails tout à l'heure, mais je voulais surtout vous expliquer dans une seconde partie qui est L'homme à l'origine des activations de Kundalini. Alors, il s'appelle Pai Vilaraza, il est philippin, on ne sait pas exactement son âge, mais on l'évalue vers la cinquantaine. C'est un ancien cadre dans le marketing qui a abandonné sa carrière complètement en 2003 pour une quête spirituelle mais radicale. Il a traversé les Philippines à pied. Et au bout d'un certain nombre d'années de périple, il se pose sur une plage déserte et il vit sur cette plage déserte pendant 2 ans. Et pendant ces 2 ans, il se nourrit essentiellement d'eau et de noix de coco. Et là, il commence à expérimenter un état d'éveil énergétique assez profond. Et c'est durant cette période, en fait, qu'il entre spontanément en transe. Il comprend pas au début trop ce qui se passe. Son corps commence comme à danser seul sous l'impulsion d'une force qu'il identifie du coup comme la Shakti, comme le pouvoir créateur, comme la Kundalini, on va dire, incarnée. Et donc, il baptise ça l'Inner Dance. Après cet éveil, en fait, il commence vraiment à essayer de structurer, de comprendre ce qui se passe, comment ça s'active, et il intègre à ça de la musique, des sons, un toucher intuitif, et du coup aussi, il va commencer, en sortant de ces 2 ans, à avoir envie, en fait, de l'amener aux gens, en fait. Parce que cette méthode qui favorise en fait des états modifiés de conscience, il se rend compte que ça permet une certaine libération des blocages énergétiques, émotionnels et même parfois des libérations dans le corps physique. Et donc du coup, à partir de 2008, il enseigne cette méthode à Palawan, donc dans les Philippines. Puis en fait, ça se fait dans le monde entier, parce qu'au début, il le fait en direct sur une personne, et puis il y a des gens qui trouvent ça génial, donc il se dit, bon, il faut que je le développe plus, il faut que je le développe plus. Donc après, il commence à se dire, bon, je vais le montrer à certaines personnes, parce qu'au final, je suis pas tout seul à savoir faire ça. Et donc, du coup, il partage, et c'est un homme aujourd'hui encore, hein, qui partage beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses gratuitement. Vous pouvez aller sur son compte Spotify. Il a toutes ses playlists qui sont complètement ouvertes et gratuites. Donc, il forme des facilitateurs parce que il veut déjà un peu se décharger des groupes énormes qui viennent le voir. Et puis, il veut propulser ça dans le monde entier. Et à partir de là, il y a des milliers de sessions et de formations internationales qui se créent. Cet homme aujourd'hui, faut savoir qu'à la base, ça s'appelait l'Inner Dance. Maintenant, ça s'appelle des activations de Kundalini, parce qu'on a ajouté d'autres choses. Et maintenant, à nouveau, il est encore en train de créer un autre système. Alors, je rentrerai pas dans les détails parce que c'est extrêmement complexe. Mais maintenant, il crée des playlists avec des sous-couches de sons différents pour, en gros, venir atteindre et stimuler toutes les zones de notre cerveau pour encore vivre d'autres choses, réguler d'autres choses, rééquilibrer d'autres choses. Donc c'est un homme qui est extrêmement inspirant de par sa simplicité. Et puis j'ai envie de dire, quand les méthodes sont justes, c'est pas pour rien qu'elles se répandent comme ça, un peu comme une traînée de poudre. Parce qu'en fait, ça paraît tellement simple. Aujourd'hui, au final, moi, la majorité des femmes qui viennent me voir pour faire du yoga ou pour faire des analyses de design humain ou des contemplations de l'âme, c'est bien qu'elles sentent que dans leur vie, il y a des choses qui ne vont pas, qu'il y a des blocages, qu'il y a du stress. Et en fait, on cherche aujourd'hui des moyens de déstresser qui sont au final mauvais. En France, on est le premier consommateur d'antidépresseurs et d'anxiolytiques, il faut le savoir. On va quand même aussi beaucoup plus, et ça c'est bien, si on va chez des personnes qualifiées, on va quand même beaucoup plus voir des psychologues, il y a beaucoup de soins énergétiques, mais c'est pareil, ça faut faire le tri, être sûr de là où vous allez. Alors, il n'y a pas de diplôme officiel en énergétique, hein, je fais une parenthèse, mais allez au moins à un endroit qui vous a été recommandé de bouche à oreille. Je crois que c'est la meilleure des publicités, le bouche à oreille, parce que je connais des gens qui ont fait et dépensé je ne sais pas combien en formation, mais qui peuvent être tombés dans un ego spirituel où ils croient vraiment à ce qu'ils font, mais au final, ils font pas grand-chose. Donc c'est important que cet élan de soins énergétiques vienne vraiment du cœur de la personne, qu'il ait lui-même vécu des transformations, nettoyé son propre parcours de vie pour ne pas tomber malheureusement dans le charlatanisme, sans même s'en rendre compte parfois. Hein. Les gens sont souvent de quand même très très bonnes intentions à la base. Donc, comment moi j'en suis arrivée à aller faire cette formation? Alors moi, je suis une chercheuse, vous l'aurez compris. Pour ceux qui connaissent le design humain, moi je suis profil déjà 6-2. Et puis, ma porte de mon soleil, c'est la porte 17, la porte de l'opinion, mais aussi la porte au final de la clairvoyance, de se faire sa propre opinion. Et en face, en terre consciente, j'ai le 18, la correction. Donc je veux améliorer les systèmes. Je veux montrer aux gens à quel point il est possible de se faire du bien sans aller forcément dans des choses très compliquées. La porte de l'opinion, elle fait de moi quelqu'un qui aime se faire son propre avis, d'où le fait que je sois une chercheuse avec la porte de la correction, je cherche, j'essaie d'améliorer les systèmes, mais aussi ce que j'aime, c'est vous amener la simplicité. Vous n'avez pas tous ni la passion, ni le temps, ni l'envie de faire forcément le travail de recherche que je fais depuis des années. Vous voulez juste la substantifique moelle et les résultats. Donc en fait, moi j'ai commencé enfin ça fait une quinzaine d'années que je fais du développement personnel, que je m'intéresse à la spiritualité suite à un éveil. Mais on va dire que ça fait la médecine chinoise, je crois que j'ai démarré en 2017, si je ne veux pas dire de bêtises, ça devait être 2016, 2017, 2018. Donc ça fait maintenant quelques années, j'ai fait 2 ans de médecine chinoise, et dans cette formation de médecine chinoise, on avait pris pour habitude, enfin notre formatrice nous guidait, quand on posait les aiguilles d'acupuncture sur le corps, elle nous disait, regardez, et c'est vrai. Les aiguilles, elles vibrent. Et du coup, elle nous demandait pendant le temps de pose des aiguilles, qui est une vingtaine, trentaine de minutes maximum, de se mettre au-dessus du corps de la personne et de faire ce qu'elle appelait des mouvements spontanés. Et du coup, moi, ça me perdait un peu. On faisait un peu de tai chi avant, on faisait quelques postures d'ancrage, de yoga, mais elle nous demandait de nous mettre au-dessus du corps de la personne et comme de faire des mouvements spontanés pour peut-être dégager des énergies, nettoyer des choses, fermer les yeux, essayer de ressentir si, y a comme des nœuds à dégager, des énergies plus sombres, ou juste peut-être autour du corps, harmoniser les choses. Et j'avoue que au début, c'était assez déroutant pour moi parce que justement, ayant cette porte 17, cette porte 18, moi, je suis quelqu'un, j'aime assez, pendant des années, j'aimais bien, au contraire, qu'on me donne des protocoles. Le côté, le point d'acupuncture, il est là, au millimètre près, pas centimètre à droite, pas à gauche, il est là. Ça me rassurait de dire, ça y est, je suis au bon endroit, j'ai bien appris, etc. Là, on me demande donc lâcher complètement le mental et de laisser mon corps faire en me mettant en résonance avec l'énergie que je ressens de la personne, laisser mon corps faire des mouvements au-dessus des corps. Il m'est arrivé pendant ces moments-là d'avoir des larmes, etc. Donc en fait, ça me faisait peur parce que ça pouvait me déclencher certaines émotions et je ne comprenais pas vraiment ce que je faisais. Donc bon, après ma formation de médecine chinoise, j'ai mis ça un peu de côté. Et puis, je me suis intéressée aux points trigger, qui sont encore d'autres points que ceux de l'acupuncture. Et puis, bref, de fil en aiguille, de rencontre en rencontre, j'ai dérivé vers le magnétisme pur. Quand je dis magnétisme pur, c'est juste de l'imposition de main sur les zones du corps qui m'appelaient. Et j'ai fait ça pendant, je pense, 6 à 8 mois. Mais en fait, la puissance du truc m'a encore fait très très peur. Et en fait, j'avais du mal en plus à demander de l'argent pour ça. Et j'ai eu des soucis de santé. Et la personne à l'époque qui m'avait accompagnée vers ça, qui était une magnétiseuse, m'avait dit, le problème, c'est que tu bloques l'énergie. On veut te donner de l'argent pour te dire que c'est ça ta voie et qu'il faut que tu y ailles. Et toi, tu bloques, tu as peur. Donc, en fait, ton corps, il tombe malade. L'équilibre de l'énergie n'est pas là. Donc j'ai arrêté complètement le magnétisme, même si je commençais à avoir des gens qui venaient régulièrement me voir. J'avais eu des résultats et assez de mal à comprendre en fait ce que je faisais et comment ça marchait. Donc quand on me demandait mais comment tu fais, je restais assez pragmatique en expliquant que je ne savais pas si parce que je m'approchais de la personne et qu'elle avait envie d'y croire, mes mains chauffaient. Est-ce que bah, tout le monde, quand on frotte nos mains, hein, si vous frottez fort vos mains, ben ça fourmille dans les mains, tout comme il y a ce système d'électricité statique si vous frottez vos cheveux. Donc il y a bien de l'énergie qui circule. On ne se pose pas la question de savoir comment le Wi-Fi passe dans l'air, etc. Donc il y a plein de choses qui passent entre le corps de deux humains. Donc est-ce que c'est parce que c'est moi qui libérais l'énergie, qui faisais du bien, qui aidais à circuler? Est-ce qu'au final la personne n'avait que besoin de croire que j'allais déclencher son processus de guérison? Et qu'elle avait elle-même un processus d'auto-guérison, ça, ce sera plus aujourd'hui. Je pense vraiment que c'est ça. C'est un échange. Je pense que tous les corps physiques et toutes les personnes ont un système d'auto-guérison, justement via tous ces circuits énergétiques, mais qu'il faut juste des fois bah, le mettre en branle, le réveiller, faire croire à la personne que ça existe. Et du coup, au final, les gens qui magnétisent, ou même, c'est pareil, j'ai 2 degrés de niveau de Reiki. Dans les Reiki, on utilise des symboles, c'est encore une autre voie d'entrée. Je pense qu'il y a autant de voies d'entrée. Je me suis aussi intéressée à aller en géologie, et je peux vous assurer que quand j'étudiais les gens, les anges, mais je faisais des rêves assez incroyables, qui étaient très initiatiques. Donc je pense qu'il y a plein de voies. Il n'y en a pas une. Il faut trouver celle qui vous correspond, qui vous fait du bien. Et du coup, pour ceux qui me connaissent personnellement, j'ai vécu 2 gros deuils en 15 jours en 2022, de gens qui avaient mon âge et des deuils assez violents. Et du coup, ça a bouleversé encore, ma vision de la vie, des choses, le pourquoi je vis ça. Qu'est-ce que je dois encore en comprendre? Je savais que je fermais un chapitre de ma vie carrément pour en ouvrir un autre, quoi. C'était assez incroyable. À l'époque, j'étais esthéticienne, hein, il faut le dire, depuis aussi une vingaine d'années. Je massais les gens et ça fait des années aussi que je m'étais intéressée à la sonothérapie, au pouvoir des vibrations, des bols tibétains. Et des fois, quand je massais les gens, c'est pareil, j'avais des messages subtils, comme si on me glissait, qu'on me parlait à l'oreille et qu'on me disait « Amène ta main par là, fais ci, fais ça. » Donc en fait, avec le temps, je me posais plus trop de questions, je disais que je faisais du massage et en fait, c'était un peu un massage signature, mélange de toutes les choses que j'avais apprises, vraiment protocolaire, mais mélange aussi juste de l'intuition, du moment et du lâcher-prise en fait dans l'instant. Et du coup, suite à ces gros chocs, à ces gros deuils qui m'ont beaucoup impactée, je donnais déjà des cours de yoga à l'époque, mais j'avais encore mon institut de beauté où je massais beaucoup, etc. J'ai décidé, à ce moment-là, évidemment, vous allez voir le médecin, vous avez 2 deuils en 15 jours extrêmement violents, le médecin veut vous blinder de médicaments, et c'est des choses que j'ai faites dans ma vie, hein, de prendre des antidépresseurs, je l'ai fait 2 fois. Et là, en fait, j'avais fait un tel travail sur moi, un tel cheminement déjà, que avec mon mari, on n'a absolument rien voulu prendre. J'ai voulu vivre les émotions. Je savais que peut-être pendant 2, 3 mois, je m'endormirais difficilement, que je dormirais moins bien, que j'allais pleurer, mais que c'était un processus naturel, en fait. Et d'ailleurs, au deuxième deuil, hein, ça a été un coup de fil et enfin voilà, ça a été un coup de fil très difficile. La première chose que j'ai faite, c'est de mettre de la musique et de me secouer, de sauter, parce que je savais que c'était extrêmement important de laisser l'énergie, les larmes, les sanglots, peut-être les cris, parce que là on se retrouve comme un enfant de 5 ans, on a des réactions. Ma réaction première, ça a été de me mettre en position fœtale au sol de protection. Mais je vous assure que dans les 5 minutes, j'ai mis de la musique à fond et j'ai sauté, je me suis secouée, j'ai pleuré, j'ai crié. Et après, je suis allée dans la forêt marcher pour revenir dans la terre, revenir dans l'instant, essayer de revenir dans la réalité, dans la nature pour m'apaiser. Et voilà, je suis passée par là. Et du coup, ben la volonté de ne pas prendre de médicaments ou de choses pour nous endormir font qu'on cherche des solutions aussi pour se libérer de ces deuils, pour les comprendre, pour vivre en fait ce qu'il y a à vivre dans les processus de deuil. Je me suis également fait suivre évidemment par une psychologue qui a été extraordinaire. Virginie, si tu m'écoutes, merci, mais mille merci encore. Ça a été vraiment mon phare sur ma route pendant cette période. Mais je suis également aussi partie faire un voyage chamanique. parce que j'avais envie, sur ces deux deuils, il y a malheureusement un suicide et j'avais un besoin d'explication, j'avais un besoin de comprendre, peut-être de rentrer en contact une dernière fois avec cette personne via un voyage chamanique. Et du coup, j'ai trouvé une fille extraordinaire pour faire ça. Et donc, dans ce voyage chamanique, j'y suis allée, j'y croyais pas trop, honnêtement. Moi, j'ai un cousin qui est hypnotiseur, qui est extraordinaire, qui est très connu dans son domaine. Et en fait, j'ai une résistance, un contrôle à l'hypnose assez incroyable. Parce que j'ai peur, en fait, de ce qui peut se passer si je me lâche. On a toujours peur d'aller vers sa lumière. Au final, on est plus confortable dans nos ombres. Donc, on veut pas lâcher le contrôle. Donc, mon cousin n'a jamais réussi à me faire lâcher le contrôle et je pars du coup dans ce voyage chamanique toute seule. J'ai à l'époque des gens qui veulent venir avec moi. J'ai dit non, non, c'est une expérience, je veux la vivre seule. Je vis ce voyage chamanique, on est une vingtaine dans la pièce. Je n'arrive pas au retour de ce voyage chamanique à exprimer ce qui s'est passé, à exprimer les images que j'ai eues, etc. parce que c'était très très personnel, que je ne connaissais pas les gens. Et j'ai pris le temps, dès le lendemain, de faire un retour vocal à la personne qui m'a accompagnée dans ce voyage pour lui raconter ce que j'avais vécu. Et du coup, là, il y a encore quelque chose qui s'est ouvert en moi à me dire, au final, ton corps sait, quand tu lâches les choses, il sait où t'amener. Est-ce que tu rentres en contact vraiment, bah, avec ces personnes décédées, avec des guides? J'ai envie de vous dire, est-ce que c'est ton imaginaire? J'ai envie de vous dire, peu importe. Ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien, ça m'a enlevé du poids, ça m'a déstressé. Et du coup, j'ai eu envie de creuser ça, en fait, mais toute seule. Donc, j'ai fait une formation pour réussir à me mettre en voyage chamanique, toute seule. Et du coup, pendant quelques temps, j'ai fait ces voyages chamaniques seuls. Quand j'en ressentais le besoin, je mettais juste, une musique de tambour. Et je mettais un bandeau sur mes yeux et je laissais mon corps faire le processus. Et au final, j'ai expérimenté ça pendant quelques années et à un moment, je me suis dit, ça y est, je me sens enfin apte à le partager aux autres. D'où cette formation au mois de mai de facilitatrice de Kundalini. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir, en fait, si je vous raconte tout mon parcours, c'est pas du tout pour vous dire que je suis supérieure ou que je suis mieux que vous. C'est pas ça du tout. C'est pour vous montrer que c'est un cheminement personnel, le fait de venir maintenant vous le partager et de savoir qu'avec moi, vous serez dans une profonde sécurité. Parce qu'en fait, ça éveille beaucoup la curiosité, la Kundalini, mais ça éveille surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup de peur. Et j'ai envie de vous enlever ces peurs, de vous dire que le corps, il sait très, très bien comment faire pour se libérer, pour se faire du bien, pour enlever les émotions qui sont stagnantes, dont on n'a peut-être même pas conscience. Alors oui, pendant une activation de Kundalini, concrètement, qu'est-ce qui peut se passer et qu'est-ce qui se passe si vous venez avec moi? On va se retrouver dans une pièce ensemble, ça peut être en individuel ou en groupe. Je crois vraiment à la puissance du groupe, même si ça fait peur de dire, oh là là, mais attends, si je me mets à crier ou à faire je sais pas quoi et qu'il y a du monde autour, on a tous un bandeau sur les yeux. Le cadre est très très posé au début, il y a beaucoup de bienveillance, on n'est pas là pour se juger et ce qui est incroyable, c'est qu'on ne sait jamais ce qui va se passer, quoi qu'il en soit. Donc on pose un cadre, on explique ce que c'est, on explique tout ce qu'on peut vivre parce que pendant une session d'activation de Kundalini, vous pouvez, de l'extérieur, il peut ne rien se passer du tout. Il peut ne rien se passer. J'ai même été surprise pendant une activation, un jour, d'avoir quelqu'un qui d'un coup se lève, enlève son bandeau, regarde à droite, à gauche, et que je me dise, mais attends, il se passe quoi? Il est complètement, il veut sortir, en fait. Et non, c'est qu'en effet, cette personne avait eu quelque chose de tellement fort que c'est un peu comme un réveil en plein milieu d'un cauchemar ou d'un rêve qui vous marque d'un coup. Waouh, ça vous sort de l'ex, ça l'a sorti de l'expérience, mais il y est vite retourné et le voyage a continué de manière assez géniale pour lui. Il y a des gens de l'extérieur, moi au début, je me disais, oh là là, il se passe rien. Et il y a des retours de j'ai ressenti aujourd'hui mon organe, j'ai ressenti la vie en fait de mon utérus. Et cette personne assez pragmatique nous dit, moi, je n'avais jusque-là ressenti que mes poumons, parce que forcément on inspire, on expire, ou mon cœur qui bat, parce que je pose ma main sur mon cœur, ou à la rigueur, mes intestins, parce que j'entends que ça grouille, que ça fait du bruit quand je digère. Et là, elle dit, mais pendant tout ce temps, j'ai ressenti la pulsation de mon utérus, j'ai visité mon utérus. Donc, peut y avoir des choses subtiles, peut y avoir des gens qui vous disent, juste, j'ai senti un peu mon corps vibrer. Comme si mes mains étaient très chaudes, ça fourmillait un peu, ça peut fourmiller entre les sourcils, sous les pieds, peu importe, comme si on rallumait un peu la vie dans tout le corps et dans tous ces interstices, dans tous les recoins entre les cellules. Et puis il y a des gens qui vont vivre des choses beaucoup plus impressionnantes. Impressionnante ne veut pas dire forcément plus forte, mais parfois, le corps, il a de telles mémoires et enfin, on le laisse se libérer, se faire du bien. Donc, vous pouvez aller très bien. Vous pouvez avoir le sentiment que non, vous êtes quelqu'un de pas en colère, il n'y a aucune tristesse en vous, tout va bien. Et en fait, eh bien, parfois, on peut avoir des cris doux, des cris de rage. Moi, je me suis entendue hurler, mais je pensais même pas pouvoir crier comme ça. Il peut y avoir des pleurs et on peut passer même des larmes, des tout petits sanglots, aux gros sanglots, au fou rire, au fou rire. Le corps, il peut se mettre à faire des choses. Moi qui suis professeure de yoga, je pense que j'ai fait des choses en activation de Kundalini que je suis incapable de refaire dans un état normal. Mon corps n'attendait que ça. J'en ai eu des courbatures, à tout vous dire. Mais qu'est-ce qui se passe après et pourquoi on fait ça? Ben on fait ça parce qu'en fait, on se dit, en tout cas moi je me dis que j'enlève tous les micro-traumatismes de mon corps. C'est comme si je vidais mes poubelles. Je nettoie tout, je ne laisse pas les choses stagnantes. Et je suis persuadée que c'est parce qu'on garde les traumatismes, parce qu'on garde les non-dits, parce qu'on garde nos conditionnements, nos obligations, tout ça. Parce qu'on contrôle complètement, on essaye de maîtriser, qu'en fait le corps ne se nettoie jamais. Et le corps physique, il ne s'arrête pas au corps physique. Si vous faites du yoga, moi je fais un yoga très énergétique, il y a le corps physique et on a des couches de corps autour de nous. On a ces couches de corps, on est un peu comme un système de poupées russes. Et en fait, chacun des corps porte peut-être nos mémoires ancestrales, si on croit à ça, porte nos émotions. Et peut-être on marche, on s'en rend pas compte, on a comme plein de petits nuages noirs autour de nous, en fait. Et ces petits nuages noirs, je suis persuadée que si on les cumule, on les cumule, on les cumule, eh bien, soit à un moment, on a la chance d'arriver à les faire exploser via une activation de Kundalini, ou en faisant du sport, ou en faisant exploser sa colère. Mais je suis persuadée quand même qu'à force d'emmagasiner ces mauvaises énergies, ces mauvaises choses, ce stress tout simplement, eh bien c'est là qu'on commence à développer. Alors peut-être d'abord on a des symptômes, peut-être on développe, on fait un burn-out, on fait une dépression, peut-être on a un ulcère, mais je pense que si on ne fait rien, c'est ça qui fait aussi les maladies. Alors je ne dis pas que toutes les maladies sont d'origine psycho-énergétique, mais je pense qu'il y a une grande part qui fait que tout ça se renforce. D'ailleurs, on dit qu'on porte malheureusement tous un cancer potentiel en nous. Donc j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que ça vous coûte d'essayer? Qu'est-ce que ça vous coûte de vous dire, j'y vais et puis je vois ce qui se passe? Je peux vous assurer que ce qui est assez incroyable, c'est qu'on est comme dans cet état d'hypnose, ou moi qui suis aussi sophrologue, comme dans cet état de sophrologie, où au final, on sent. Moi, il y a un moment, mon corps, je sentais, il avait envie de faire un pont. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, un pont en yoga, Urdhva Dhanurasana, où on met les mains au sol et on se courbe et le cœur s'ouvre au maximum. Et j'étais très présente, je me disais, mais non, mon corps ne peut pas faire ça, là, je ne suis pas échauffée, etc., je vais me faire mal. Non, non, non. Et à un moment, j'ai dit, ok, arrête de réfléchir, laisse le corps faire. Et pendant tout le temps des activations de Kundalini, c'est ce que je vais vous inciter à faire. Le pied commence à bouger, laissez-le bouger encore plus. La main se met à trembler, laissez le tremblement émerger. Et au final, c'est en lâchant prise sur ce qui se passe que le corps se met en action et qu'il lâche ce qu'il a besoin de lâcher. Et quel sentiment de libération, quel sentiment d'abandon, Quel sentiment de légèreté après une séance d'activation de Kundalini. Il est important par contre, et ça je le répète, pareil, privilégiez le bouche-oreille, sachez où vous allez, n'y allez pas au hasard, renseignez-vous. Si vous avez envie de le faire et que vous n'avez personne dans votre entourage qui s'intéresse à la spiritualité, que ce soit avec moi ou quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à appeler la personne, à échanger avec des audios sur WhatsApp, peu importe, mais essayez de voir que l'énergie de la personne, elle vous correspond, vous allez vous sentir en toute bienveillance, en toute tranquillité, en toute sécurité. C'est important de savoir que c'est pas dangereux, surtout si c'est bien guidé. Qu'on ne vous laisse pas dans un état, par contre, de suractivation, parce que la personne qui vous fait ça, pareil, hop, ego, 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 on y va à fond. Non, c'est pas le but. Le but, c'est que vous soyez bien accompagné, que vous soyez quelqu'un de spirituel, mais d'ancré, de vraiment ancré dans la matière, avec du cadre, avec de la préparation, avec des respirations conscientes, que vous sentiez que vous pouvez complètement vous lâcher et qu'il n'y a aucun problème, que vous serez en sécurité. Donc, si je résume tout ça, l'éveil de la Kundalini, vous avez peut-être aussi entendu que pouvait y avoir des pouvoirs mystiques ou des choses extraordinaires. J'ai même entendu parler de multi-orgasmes derrière, j'en sais rien. J'ai envie de vous dire, c'est un peu comme les dérives du tantra, alors que la partie intime du tantra ne représente qu'une toute petite partie du tantra. Je ferai peut-être un épisode là-dessus un jour. Les textes de tantra sont tellement merveilleux, poétiques, par tellement de non-dualité, justement, de rapport entre le masculin, le féminin, enfin, c'est tellement plus que ça. C'est peut-être libérer de l'abondance dans votre vie. L'abondance, c'est pas juste l'argent, c'est l'abondance de joie, de rire, de légèreté, de partage, peut-être de se reconnecter avec votre intuition, de se relier peut-être juste plus au vivant, à la terre, à votre corps. C'est un chemin long, lent. C'est pas un objectif à atteindre. C'est pas moi, j'ai fait une séance incroyable et toi, oh bah oui, t'as quasiment pas bougé. On n'est pas là pour se comparer. On est là pour vivre l'expérience. Et cette reconnexion, et trouver vraiment cette reconnexion profonde à une force de vie originelle qui serait déjà là en nous. Regarder ce qui dort encore en nous et peut-être commencer juste à l'éveiller. Donc je vous remercie de cette écoute et si cela a vibré en vous, si cela vous a fait du bien, si cela vous avait donné envie de faire ça, sachez que je vais une fois par mois maintenant proposer des séances d'activation de Kundalini à Nîmes, à Arles, dans les environs. Mais que en individuel et en groupe, mais que je peux également le faire à distance parce que je suis formée et que la puissance est exactement la même. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très très bientôt dans un nouvel épisode. Bonne fin de journée à tous.